Ça vaut le détour avec Luc Fortin.
Salut tout le monde! Luc Fortin en compagnie de Rémi Hermoso, Lynn Gargano à la recherche, Claudia Benoît aux réseaux sociaux. Et j'ai pas eu le temps de vous dire qui était à la musique. Un déjà disparu. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, ça vaut le détour, édition du 20 novembre, où entre autres, il sera question de visites accessibles au Musée des Beaux-Arts à Montréal, d'entraînement physique pour les personnes atteintes de dystrophie musculaire, de jeux vidéo adaptés et d'une campagne. On est motivé, nous sommes invités, conviés, presque implorés, si on veut que ça change, de faire des plaintes sur une base collective en santé et services sociaux. Et c'est le mouvement Phase qui a mis ça de l'avant. À savoir, bon, ce mouvement-là des personnes handicapées pour un accès à la santé et aux services. Eux qui, dans les prochaines minutes, vont démarrer cette campagne qui va continuer comme ça pour les prochains jours. On va en causer avec Olivier Martin. Rémi, j'entends que Olivier est là. Olivier, bonjour.
Bonjour, Monsieur Fortin.
Ah, Luc, c'est parfait, Olivier. On se connaît trop pour ça. De toute façon, même les inconnus de l'Asie centrale, je les invite à m'appeler Luc. Ça va bien?
Très bien, toi-même.
Oui, ceux qui nous écoutent en direct, nous sommes à quelques dizaines de minutes avant le lancement de cette campagne. Gros après-midi aujourd'hui pour vous. Mais oui. Comme la plupart vont probablement nous écouter après ce lancement-là, peut-être revenons d'abord sur le forum de 2013 qui a initié cette idée.
Oui, tout à fait. Bien, à la même époque, l'année passée, en novembre 2013, on avait tenu un forum sur l'accès aux services à Montréal. Donc, un forum qui avait rassemblé près de 200 personnes. Et les objectifs de ce forum-là, à l'époque, c'était justement de faire un état de la situation puis un bilan de l'accès aux services avec toutes les réformes qui ont été apportées dans les dernières années, avec le plan d'accès aux services pour les personnes ayant une déficience qui avait été mis en place. Donc, c'était un moment de réflexion, mais aussi un moment d'échange pour cibler des enjeux collectifs relativement à l'accès aux services pour les personnes en situation de handicap. Et l'objectif aussi de ce forum-là, c'était qu'on sorte de ce forum-là avec des idées, des pistes d'action collective à mettre en œuvre pour améliorer la situation de l'accès aux services. Donc, c'était plus qu'un forum où on se réunit pour échanger, pour discuter, pour débattre. C'était vraiment de s'aligner sur l'action. Qu'est-ce qu'on peut faire collectivement, concrètement, ensemble pour améliorer l'accès aux services? Quand on parle d'accès aux services, bien entendu qu'on parle de services de santé, services sociaux publics.
J'allais justement vous poser la question. Vous avez rétréci un petit peu les paramètres des services de société, mais quand même, santé, services sociaux, c'est assez large. Ça peut aller de où à où, le genre de service auquel on a droit de s'attendre, sur lequel le mouvement Phase se penche?
C'est tous les services de santé ou de services sociaux, que ce soit par exemple les médecins spécialistes, les professionnels, les services d'orthophonie, d'audiophonie.
Maintien à domicile?
Oui, bien entendu. Ça fait partie de la santé des services sociaux, même par exemple des enjeux comme l'allocation de fréquentation ou les contrats d'intégration au travail.
Oh, OK.
Ça rentre grosso modo dans tout ce qui est services sociaux. Donc, les services sociaux, c'est en soi, c'est assez large. Puis malheureusement, là, à l'heure actuelle, on est plutôt centré sur la santé plutôt que les services sociaux. Mmh. Et souvent, ça va être le médical, l'hôpital qui va avoir beaucoup d'attention, tandis que les services sociaux, ça va être un peu délaissé. Et c'est là-dessus que nous, on agit, on fait de l'action collective et on veut défendre les droits des personnes en situation de handicap à avoir accès à ces services-là.
Donc, l'an dernier, en novembre dernier, on a lavé son linge sale en famille. On a finalement évoqué les choses qui nous manquent et on a également décidé d'un plan d'action pour que le linge sale ne soit plus que connu par la famille, mais bien par ceux et celles qui sont dispensateurs de services.
Oui, bien, plus que laver du linge sale, on s'est dit, là, il est temps qu'on mette nos culottes. Et un des objectifs du forum, c'était de dégager des revendications communes puis des pistes d'action. C'est beau de demander davantage de services, mais comment qu'on fait concrètement pour avoir ce qu'on désire, ce qu'on revendique? Et une des idées, l'idée la plus porteuse qui était sortie du forum, c'était d'organiser une campagne de plainte collective sur l'accès aux services où on en est aujourd'hui. Et puis, aussi pour dire que d'où vient l'idée, ça vient aussi du forum, mais également, depuis 2012, le mouvement FAS fait une tournée d'éducation populaire sur les droits et les recours des usagers dans le réseau de la santé. Donc, on a fait des présentations dans plus de 115 organismes dans cette région du Québec pour expliquer aux gens quels sont leurs droits qui sont reconnus par la loi sur la santé et les services sociaux du Québec. Donc, qu'est-ce que la loi nous donne comme droits et comment on peut faire pour les faire respecter. Donc, là, on parlait davantage des recours comme la démarche de plainte. Donc, aujourd'hui, on en est à collectiviser tout ça et mettre nos insatisfactions en commun et à agir tout le monde ensemble pour revendiquer, pour créer un rapport de force, pour faire des pressions au niveau politique pour améliorer l'état de l'accès aux services.
Olivier Martin, coordonnateur du mouvement FAS, donc personnes handicapées pour l'accès aux services. La différence, Olivier, entre une plainte collective et un recours collectif?
Oui, bien, un recours collectif, ça va être davantage, je sais que l'Union des consommateurs, par exemple, en fait souvent, c'est des fois quand il y a une mauvaise facturation ou des frais comme ça qui ont été chargés. Mais une démarche de plainte collective, ça s'inscrit dans la logique du réseau de la santé et des services sociaux. Il y a déjà un régime de plainte, mais c'est un régime individuel.
Donc, le juridique, une des différences, c'est que le juridique n'est pas interpellé, entre autres.
Non. Ce qu'on veut faire, c'est pas une démarche juridique comme telle, c'est davantage une démarche citoyenne, collective et politique. Ça s'inscrit dans la sphère politique, parce qu'il faut bien savoir que dans le réseau public de la santé, l'état de l'accès aux services, les priorités qui sont définies, c'est des choix politiques, c'est des décisions politiques qui sont prises par le gouvernement, par le ministère de la Santé, par le ministre. Donc, c'est d'utiliser les droits qui sont reconnus dans la loi et en se basant là-dessus, agir collectivement, en faisant une plainte collective et en mobilisant les gens pour créer ce rapport de force-là et exercer des pressions sur le gouvernement, sur le ministère de la Santé, pour qu'il y ait davantage d'accès aux services, davantage de ressources, davantage de professionnels et que l'accès aux services pour les personnes en situation de handicap soit une des priorités du gouvernement.
Dans cette campagne de plainte, Olivier, y a-t-il été question de tous pousser dans la même direction, disons, avec la même réalité, de façon à ce qu'on frappe le clou solidement où chacun peut y aller de son insatisfaction, de son besoin bien personnel?
Bien, il y a les deux. Donc, c'est ça aussi un début de l'Assemblée aujourd'hui, c'est que les gens, les personnes en situation de handicap et des représentants des organismes communautaires, on se rassemble aujourd'hui pour dire, OK, on a plusieurs clous devant nous, comment on agit? Et c'est sûr qu'il y a le gros clou de la santé, des services sociaux, de l'accès aux services qu'on peut taper, mais ça prend...
Mais c'est tellement large.
Beaucoup. Ça prend... Oui, c'est large, mais il y a aussi plusieurs dimensions à ça. Donc, et quand, par exemple, pour une personne, tout dépendamment de sa déficience, de ses besoins de services, c'est pas toujours la même insatisfaction, mais c'est toujours le même problème de l'accès aux services.
Ouais.
Et aussi, quand on se promène dans les régions du Québec, quand on va rencontrer les gens au forum, il y a souvent des grands thèmes qui ressortent d'insatisfaction, comme vous avez nommé tantôt le soutien à domicile. C'est un des enjeux centraux de l'accès aux services, manque de services, insuffisance de services, délai d'attente et tout. Donc, c'en est un qu'on a déjà mis à l'ordre du jour de notre Assemblée, dont on veut avoir un peu l'input des gens, parce que c'est une démarche qui se fait par et pour les personnes en situation de handicap. Donc, pour qu'il y ait de l'adhésion, pour qu'il y ait de la mobilisation, il faut que ça parte de leurs besoins concrets, de leur réalité aux personnes. Et c'est ça qu'on vient, on se rassemble aujourd'hui pour s'enligner là-dessus.
Olivier
et,
Martin, est-ce que les proches aidants sont inclus dans la démarche ou là, on ratisse peut-être un petit peu trop large?
Bien, c'est sûr que les proches, oui, tout à fait. Quand on parle de proches aidants, que ce soit la famille, les parents, les conjoints, c'est sûr qu'eux aussi sont inclus dans cette démarche-là parce que quand on manque d'accès aux services, quand on n'a pas des services en quantité suffisante, bien là, à ce moment-là, ça retombe sur les épaules des proches, de la famille. Donc, aussi souvent, on entend parler, par exemple, que des mères qui sont obligées de quitter leur emploi parce que leur enfant a des services de 0 à 5 ans et arrive à 5 ans, donc le programme arrête et il se retrouve devant rien. Mmh. Donc, interruption de service. Donc, ça, c'est vraiment, c'est un des problèmes de l'accès aux services pour les proches, pour les proches aidants. Donc, tout à fait, oui.
Et là, sur le site du mouvement, vous avez, et même dans le communiqué, vous suggérez des pistes, des directions pour loger sa plainte, que ce soit tout près de nous, dans un centre de réadaptation, en allant du côté du commissaire, ou même dans un centre de santé, ça peut être le CLSC, ça peut être... ou encore, ça peut être, bon, aux députés, ça, vous suggérez des pistes. Ma question, si tout le monde s'en va dans des directions différentes, il n'y a pas danger que tout ça soit dilué en bout de piste?
Non, parce qu'au bout de piste, parce qu'il faut bien savoir que le régime de plainte et les recours dans le réseau actuellement, c'est un régime individuel. Donc, tout ça, toute la démarche repose sur les épaules de la personne qui entreprend cette démarche-là. Et ça va avoir une portée limitée, parce que souvent, ça va être pour une personne dans un établissement.
Ouais.
Et le but, c'est de collectiviser toutes ces situations problématiques-là. Donc, une personne qui est en Abitibi, qui a un problème d'accès aux services de soutien à domicile, et la personne qui est à Montréal et qui a besoin, pour améliorer sa situation, ce serait, par exemple, une bonification du soutien aux familles, par exemple. Mm-hmm. Donc, c'est de collectiviser ces choses-là et c'est ça que le mouvement FASE veut faire par cette campagne de plainte-là. Donc, c'est ramasser une somme de problématiques vécues individuellement, mais qui, au bout du compte, rendre ça collectif et utiliser cette masse-là de personnes, d'insatisfaction, de plaintes, rendre ça collectif pour faire des pressions au niveau politique.
La campagne qui se termine quand?
L'échéancier, donc, on va en discuter aujourd'hui.
OK, c'est pas déterminé.
Mais nous, on prévoit plusieurs actions dans les prochains mois, tout au cours de l'hiver. Donc, les gens vont pouvoir... on invite les gens à formuler des plaintes massivement à partir d'aujourd'hui jusqu'au 28 février. Et ensuite de ça, d'autres actions vont suivre, des actions médiatiques, des rassemblements, toujours dans le but d'une gradation des moyens de pression pour exercer un rapport de force sur le ministère. Et nous, au printemps 2015, au mois de mai, on s'attend à ce que le ministre de la Santé s'engage pour l'accès aux services pour les personnes en situation de handicap. Donc, ça va se dérouler à partir de novembre jusqu'à mai 2015. Il va y avoir plusieurs actions qui vont être faites, qui vont être entreprises pendant cette période-là.
Et en terminant, 30 secondes, est-ce qu'il y a encore cette année la tenue du cabaret accessible? Je sais qu'habituellement, lorsque vous le faites, c'est plutôt première semaine de décembre ou fin novembre?
Oui, malheureusement, non. Cette année, on fait pas de cabaret accessible.
C'est pour ça que j'ai pas rien vu passer.
Non, c'est ça. C'était un événement pour souligner le 3 décembre, le Journée internationale des personnes en situation de handicap. Malheureusement, comme beaucoup d'organismes communautaires, on souffre des effets du sous-financement et de l'austérité en général. Donc, c'est vraiment très difficile de financer ce genre d'activité-là. Fait que c'est pour ça que cette année, on ne le faisait pas. Et aussi, c'était dans cette optique-là qu'on était dans la rue lundi dernier là, avec les organismes communautaires du Québec pour réclamer une hausse de 225 millions de notre financement.
Donc, c'est sûr que ça libère nos calendriers, mais en même temps, parce qu'il y a Mémo Québec également qui avait l'habitude d'offrir un événement à la mi-novembre. Donc, les deux semaines qui nous... permettent d'aller magasiner, mais nous non plus, on n'a pas plus d'argent. Alors,
non, c'est ça. Ouais. Bien, je pense que tout le monde est un peu dans le même bateau avec l'austérité, avec ça touche autant le travail, l'éducation, les services de garde, l'aide à l'emploi, la santé mentale et tout. Donc, vraiment, on est... provinces disent on est attaqué de toutes parts, puis c'est pour ça qu'il faut se mobiliser, il faut agir, il faut défendre nos droits, il faut revendiquer pour avoir les services qu'on a de besoin.
Oui, parce que comme j'expliquais à quelqu'un hier, ce n'est pas qu'on veut deux ou trois programmes symphoniques de plus ou une belle statue ou encore un club de ci. Ou, on ne demande pas des subventions pour du loisir. Là, je veux dire, les services qui sont coupés, là, mais il y a quand même des gens qui sont obligés de les donner, ces services-là. Et comme on a parlé tantôt des proches aidants ou des gens qui sont déjà fatigués, qui ont déjà d'autres choses à faire, puis qui sont obligés de les dispenser, ces services-là. Donc, c'est pas juste de, OK, ben pendant 2-3 ans, on va limiter ça pour couper les dépenses, puis on recommencera après. C'est pas ça, la vie, la vie humaine.
Non, non, les coûts sociaux sont extrêmement importants de l'absence de services, autant pour les proches aidants que pour les personnes qui reçoivent les services.
Je suis obligé de vous laisser aller, Olivier, je suis désolé. Faut parler du Musée des Beaux-Arts, puis de toute façon, vous avez un après-midi à organiser, puis des mains à serrer alors que les gens vont arriver. Pour ceux qui nous écoutaient en direct, ben sachez que ça se passe au 12-12 Panais, ça commence à 13h. Pour les autres, allez sur le site du Mouvement FAST. De toute façon, toutes les informations sont sur la page de Ça vaut le détour. Oui. Et on est appelé là à... je dirais pas s'indigner, c'est pas ça l'idée, mais de dire ça, là, voici l'impact de ce manque à gagner-là dans ma vie. Et il faut que les élus et les décideurs comprennent.
Et surtout dire, on veut que ça change.
Oui, oui, on a besoin que ça change.
Et on s'organise pour avoir ce qu'on veut. C'est ça aussi qu'on fait aujourd'hui.
Bonne continuité, Olivier Martin.
Merci beaucoup.
Olivier, qui est coordonnateur du mouvement Personnes handicapées pour l'accès aux services, le Mouvement FAST. On écoute, tiens, une toune de Frida Bocara reprise ici par les Muses. Et ensuite, nous, pendant ce temps-là, on va prendre contact avec le Musée des Beaux-Arts.
Il y aura 100 000 chansons quand viendra le temps des 100 000 saisons. 100 000 amoureux, le pareil à Nereuil, dans le lit tout bleu de la terre. 100 000 chansons rien qu'à nous, 100 000 horizons devant nous, partagés de bonheur. Des châteaux insensés, des bateaux étoilés, des étoiles oubliées, et tes yeux et mes yeux dans un océan d'amour. Il y aura 100 000 chansons. Quand viendra le temps des 100 000 saisons, 100 000 maisons gravées à grains, parmi les moissons de la terre, 100 000 chansons rien qu'à nous, 100 000 horizons devant nous, partagés de bonheur. Tes yeux et mes yeux dans un océan d'amour.
Les Muses, avec 100 000 chansons. Bon, la magie du direct, semble-t-il que Jean-Luc Murray est en réunion. Ah, que voulez-vous? Ainsi va la vie. Si, de toute façon, Jean-Luc, qui est le chef de service de l'éducation et de l'action culturelle du Musée des Beaux-Arts de Montréal, est en réunion pour améliorer la qualité des services offerts aux personnes qui en ont besoin peut-être, parce qu'on parle de services et de visites accessibles pour les personnes à mobilité réduite ou même les personnes aveugles, ben on est d'accord. Mais on a quand même tapé sur l'épaule de la réceptionniste pour qu'elle aille tirer le lobe de l'oreille de Jean-Luc. On espère l'avoir avant la demi. Vous dire quand même qu'au musée, ces temps-ci, il y a l'exposition de Van Gogh à Kandinsky de l'impressionnisme à l'expressionnisme, c'est de 1900 à 1914. Bon, ceux qui connaissaient ça, vous le saviez. L'animateur ne le savait pas. On dit que les œuvres présentées au MBAM, Musée des beaux-arts de Montréal, dans le cadre de cette exposition, ont été réunies grâce au prêt d'importants collectionneurs privés et d'institutions muséales, comptant parmi les plus prestigieuses d'Europe, du Canada, d'Asie et des États-Unis. Une vingtaine de tableaux et une quinzaine de gravures et de dessins sont exposés en exclusivité. Et il y a le regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain qui organise une visite mercredi le 26 prochain. C'est à 11h15. On suggère fortement d'être sur place à 11h. La visite a lieu de 11h15 à 12h15. Je vous invite à composer le 277-4401 dans le 514, 277-4401 pour vous inscrire. Donc, c'est une visite guidée. Pour y être allé, ce n'est pas audio-guidé, mais bien avec un ami du musée qui connaît son affaire, qui vous explique les origines de la peinture, ce qu'il y a sur le tableau, le thème et l'inspiration qui a motivé le peintre à, justement, coucher ça sur la toile. Moi, je me souviens on parlait d'un mariage brisé. Là. Il y a, semble-t-il, une peinture que l'on m'a décrite. Je ne me souviens plus de quel peintre. Mais l'histoire de la femme qui était sur la peinture était vraiment, vraiment intéressante. Et en plus, et ça, malheureusement, bon, on ne pouvait pas y toucher, mais on m'a dit que le tableau était grandeur nature. 6 par 3, certains disaient 7 par 4. Donc, la dame qui était peinte était grandeur nature. Moi qui ai déjà vu partiellement, je n'ai jamais vu d'aussi grand tableau. Je trouve ça impressionnant. Le peintre qui, si je me souviens bien, a été avec cette dame pendant 5 ans. Mais semble-t-il qu'il l'a jamais oublié. Une belle histoire et il y en a plein. Des histoires comme ça. Donc, si ça vous intéresse, vous allez composer le 277-4401 pour joindre le RAM et voir comment, justement, vous pouvez peut-être mercredi le 26 y aller entre... vous arrivez à 11h, vous êtes là de 11h15 à 12h15. Et ensuite, vous allez ailleurs ou aller ailleurs dans le musée. J'ai même eu l'occasion, et je ne sais pas, j'aurais bien voulu poser la question à Jean-Luc Murray. Je pense pas que c'est parce que c'était particulier. J'ai même touché à une statue avec les gants et tout. Là. Donc, il y a vraiment des choses qui sont mises à la disposition. Et au cas où je n'ai pas le temps d'ici la demi de parler à Jean-Luc, sachez qu'il y a également possibilité de visiter seul. Mais là, vous devez réserver. On a parlé de la visite de groupe organisée par le RAM le 26 prochain. Mais si vous voulez aller avec un ami, vous appelez à peu près 3 semaines à l'avance, vous réservez et vous pouvez vous aussi bénéficier des services d'un guide qui vous explique et qui va peut-être, et je présume, c'est juste Luc Fortin, c'est pas Paul Arcand, vous aussi, vous allez pouvoir toucher, entre autres, à cette statue-là, qui avait vraiment impressionné la guide plus que l'animateur, mais que voulez-vous, l'art contemporain... Je ne connais pas ça. Alors, j'ai de la difficulté à savoir, finalement, la valeur des choses, mais j'ai pu quand même avoir une idée de vers quoi nos subventions vont. Tu te dis, coudon, on est-tu en train de cacher ou diminuer le service à domicile pour subventionner ça? Il me semble que j'aurais pu le faire à la maison, mais ça c'est moi. Bon. Jean-Luc Murray, on est content que vous soyez là. Je viens de dire des bêtises. Vous allez être obligé d'entendre ça en reprise. Je parlais d'art contemporain, d'une statue que j'avais touchée, que j'avais absolument pas compris, même si le gars il se posait jouer de la guitare. Parlez-moi, parce que bon, il nous reste moins de temps. J'ai parlé de la visite, mais oui. Est-ce qu'il y a des coûts d'abord rattachés lorsque je réserve sur une base personnelle 3 semaines d'avance?
En fait, il faut, sur une base personnelle, il faut assumer les coûts liés à l'accès à la collection, comme pour toutes nos visites guidées.
D'accord.
Mais on a surtout des clientèles de groupe dans ce créneau-là, donc à ce moment-là, ils sont éligibles à notre programme Musée en partage qui permet l'accès gratuit aux visiteurs à besoins particuliers. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de frais.
Mais de toute façon, si j'y vais avec un ami, vous acceptez la vignette d'accompagnement.
Bien sûr.
Donc, c'est deux personnes pour le prix d'une. Et là, on peut peut-être davantage poser nos questions, contrairement à un groupe. S'il y a un fatigant comme moi dans le groupe, il y a bien des gens qui ne pourront pas parler.
Ben, en fait, vous savez, on est dans... On appelle toujours ça des visites, mais on pourrait aussi appeler ça des rencontres ou des conversations, parce que c'est vraiment une opportunité d'échanger sur l'art ensemble dans un contexte positif. Et là, c'est certain que si on a accès à des gens, on rencontrait justement Mme Trudeau hier, qui est une de nos partenaires pour développer les produits pour les gens aveugles et amblyopes. Elle nous disait que la vision, c'est un sens qui permet de capter en un instant, tandis que quand on écoute ou on touche, c'est des sens qui sont plus linéaires ou par superposition. Donc, il faut un peu plus de temps.
Oui, et j'aime le point de vue de Marie qui, pour l'avoir déjà entendu là-dessus, elle, contrairement à d'autres, dit « oui, j'aimerais ça voir » et « oui, c'est pas la même chose de toucher et de découvrir graduellement plutôt que le « wow » instantané de tout ce qui est projeté dans notre œil d'un seul coup. Bon, il y a des tableaux, on parle d'une vingtaine de tableaux dans cette exposition-là, des expressionnistes aux impressionnistes. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des choses, des sculptures, est-ce qu'il y a des choses que l'on peut toucher, justement?
Malheureusement, dans cette visite-là, on est un peu limité par la stature des œuvres. Hein. Vous savez, c'est des grands chefs-d'œuvre qui viennent de grands musées, donc on est limité à la description active. Ouais. On appelle ça une visite multisensorielle. On essaie de faire appel à d'autres sens quand c'est possible.
Moi, je n'ai pas pu toucher au cadrage. Est-ce qu'il y en aura qui seront plus chanceux juste pour voir la grandeur de certains tableaux?
Malheureusement, non.
Okay.
Comme je vous ai dit, on est beaucoup plus actifs. On vous en a probablement parlé avec la collection du musée où là, il y a vraiment des sculptures que vous pouvez toucher. Mm-hmm. Et des œuvres qu'on aborde avec, par exemple, le son, avec l'émotion. Donc, on est dans un registre peut-être un peu plus riche. Pour les expos temporaires, entre autres, Rodin, par exemple, qui s'en vient, qui est une expo où il y aura une galerie tactile dédiée, on va pouvoir faire un effort supplémentaire. Sauf que peu importe, c'est ce que disait hier notre partenaire, peu importe le canal qui est privilégié, tant mieux si on peut en privilégier plusieurs.
Oui,
là,
oui.
La vue, le toucher, la description, l'ouïe, etc., ça a quand même sa valeur de se retrouver
Absolument.
Au musée aussi.
Absolument. Ben, merci beaucoup, Jean-Luc.
À bientôt. J'espère que vous apprécierez nos prochains projets. Probablement que dans 5 ou 6 ans, les visites multisensorielles pourront convenir à tous les publics.
En tout cas, l'invitation est lancée.
Exactement.
Jean-Luc Murray, chef des services de l'éducation et de l'action culturelle du Musée des Beaux-Arts. Je vous reviens dans 2 minutes.
Ça vaut le détour.
Avec la petite équipe habituelle, Rémi Hermanceau. Rémi? Tout à fait, merci. Il y a Claudia qui est aux réseaux sociaux, Madame Benoît, Lynn Gargano à la recherche. Je pense que j'ai fait le tour. Et tiens, juste rappeler que c'est Louise Vien, qui est directrice de Canal M, ce service mis de l'avant par Vues et Voix, qui est au Salon du Livre, pour ceux qui nous écoutaient ce week-end, là, kiosque ou stand 323. Thomas Gaudy.
Oui, bonjour.
Vous dites go ou ga?
Je sais
G-A-U.
Pas.
G-A-U.
Selon l'humeur, en fait. Allez-y.
La vôtre ou la nôtre?
Allez-y, la vôtre. Gaudy.
Vous êtes dans l'informatique, vous êtes dans le jeu.
Oui, le jeu accessible.
Mais parlez-moi un peu de cette idée de base. Est-ce que vous êtes un gamer? Est-ce que vous êtes quelqu'un là, qui... les gens qui sont avec vous... Thomas, lâche ça, là. Viens jouer dehors.
Mais je suis profondément dépendant. Ça pourrait être un réel problème, mais j'arrive à gérer mon addiction de façon acceptable socialement.
Parce que là, j'imagine, si vous aimez ça, vous avez vos loisirs, puis en plus, vous y travaillez.
Alors, en fait, c'est assez simple. Hein. Il suffit de couper la télé. Comme ça, okay. On a tout le temps qu'on veut pour faire plein d'autres choses. Je regarderai juste votre émission télé.
Ben, c'est bien, c'est bien. Vous avez le temps encore. Ludociel. Pour tous, donc, et vous me disiez, lorsque vous m'avez envoyé un petit courriel, qu'il y avait des ajouts de la proposition du départ.
Oui,
tout
à fait.
Vous aviez connu une bonne année.
On s'est rencontrés une première fois, on portait à ce moment-là le nom de JPAC pour Jeu Pédagogique Accessible Québécois. Mmh. On est maintenant Ludociel pour tous. On a près de 2 ans d'existence et on propose maintenant une quinzaine de projets de jeux accessibles, gratuits, sur notre site web.
Donc, pourquoi changer de nom ?
Parce que JPAC, quand je vous dis ça tout de suite, vous pensez à quoi ?
CEPAC, le canal de l'Assemblée nationale.
Voilà, donc il fallait changer.
Okay. Est-ce que c'est les gens, quand vous posez cette question-là, eux, ils vous disent quoi?
On nous répond souvent les petites annonces.
Ah, OK. Oui, oui.
Donc, l'EPAC,
oui, c'est vrai. C'est vrai. OK. Vous avez cette mission-là quand même qui n'a pas changé de concevoir.
De concevoir.
Ou d'aider à concevoir. Ça, je trouve ça intéressant parce que vous voulez être le partenaire également de quelqu'un d'autre.
Alors oui, tout à fait. Par exemple, un exemple de projet concret, on a réalisé au cours de l'année un jeu vidéo accessible avec des personnes non ou malvoyantes en France, de l'école Paul et Liane Guinaud et avec la collaboration de la Cité des sciences et de l'industrie de Paris. Donc, c'est un jeu vidéo sonore accessible qui a été conçu avec tout plein de jeunes, ensemble, collaborativement, et qui est actuellement encore exposé à la Cité des sciences. Mmh. Ce genre d'atelier, on l'a proposé à l'événement Je vois Montréal ce lundi.
D'ailleurs, vous étiez, pour avoir regardé un peu les propositions et avoir fait le tour des pages Facebook, le seul projet, à ma connaissance, qui traitait de la limitation quelle qu'elle était dans le Je vois Montréal.
Faut peut-être pas s'en réjouir, malheureusement.
Non, au contraire. C'est pour ça que je le note. Et en même temps, bon, bravo à vous.
Merci.
Mais en même temps, on peut pas chicaner personne. C'est parce qu'on ne les présente pas, ces projets-là. C'est parce qu'on manque d'entrepreneurs. C'est parce que...
On essaye de faire notre part.
Oui.
Et puis, comme il n'y a pas tant de monde, on va essayer d'en faire un maximum aussi. Donc voilà, on fait des jeux accessibles et on essaye d'aider à les faire. Mmh. Et donc pour ça, en fait, on voudrait mettre en place, dans le cadre de cette action de Je vois Montréal, des ateliers avec des jeunes mâles ou non-voyants de conception de jeux vidéo. Donc c'est une invitation que je lance, en fait, s'il y a des gens qui écoutent cette émission qui aimeraient participer à la conception d'un jeu vidéo pédagogique accessible, si vous avez un handicap visuel, quel qu'il soit, on pourrait faire ensemble un jeu à condition qu'il soit pédagogique. Ce sera un atelier gratuit.
Justement, je suis déçu que vous ayez dit ça. Je me disais peut-être qu'avec le changement de nom et donc le mot pédagogique retiré, il va peut-être éventuellement y avoir des jeux où on peut tuer du monde.
Ah, mais oui, mais c'est très défoulant de tuer du monde.
Oui, mais il n'y a rien de pédagogique là.
l'aspect pédagogique, justement, peut être un petit peu dérangeant, c'est vrai. Moi-même, j'aime beaucoup les jeux de guerre, mais il y en a tellement, il y a tellement d'autres choses à exprimer. Ouais. Et puis, ce média aurait un tel pouvoir pour instruire ou permettre d'apprendre en s'amusant que ce serait vraiment dommage de, nous aussi, suivre la mouvance du jeu de guerre.
Mais en même temps, on a envie que ce soit ludique, on n'a pas nécessairement envie d'apprendre toujours, ou en tout cas que ça devienne presque un travail scolaire. Est-ce qu'on peut avoir que ce soit... Bon, vous allez connaître mon décalage, là, un genre sim.
Oui.
Où là, tu peux apprendre, mais tu dois construire une ville, tu dois gérer une ferme, tu dois des similitudes ou des simulations. Ça m'apparaît très intéressant.
Alors, il y a énormément de choses à faire hein, dans ce domaine-là, et plus encore dans le domaine du jeu accessible, on peut partir dans énormément de directions. Alors, par contre, on est une petite structure et il faut qu'on choisisse nos projets méticuleusement. En termes de violence, puisque vous en voulez, apparemment, je propose un jeu chasseur de fautes où les joueurs incarnent des élèves et doivent se défendre contre un professeur sadique. Donc il s'agit d'un jeu collaboratif, d'apprentissage certes, mais il faut se défendre des assauts un peu trop zélés d'un professeur qui cherche à transmettre son savoir un peu trop par la force.
Ouais.
Et les joueurs donc peuvent, c'est un jeu sonore, Je vois blanc dans le noir, peuvent ensemble collaborer pour réussir à répondre à ce quiz et lutter contre le système de jeu.
J'ai essayé de télécharger un jeu de mémoire. Bon, je n'y suis pas parvenu, mais ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas bien. Le gars, il n'est pas vraiment bon avec le clavier et l'informatique. La difficulté principale lorsqu'on tente de rendre l'accès aux personnes non-voyantes.
Oui.
Puis en même temps, il faut rendre ça agréable et attrayant aux personnes semi-voyantes.
Alors, il y en a plusieurs des difficultés. Je reste sur cet exemple du jeu de quiz dont je parlais, ouais. Chasseur de fautes, ouais. Qui fait d'ailleurs l'appel d'un financement participatif que vous trouverez sur notre site web. Il y a deux difficultés. Si on le présente aux joueurs voyants, c'est un jeu sonore jouable dans le noir avec très peu de visuels, donc c'est pas très attrayant.
Ouais.
L'autre, la difficulté aussi, c'est que c'est pas parce qu'on est voyant, non-voyant, qu'on va forcément se sentir à l'aise avec un jeu sonore. Il y a quand même tout un mécanisme d'apprentissage. Et il faut être assez familiarisé avec des mécanismes de jeu pour s'y sentir à l'aise. Donc il faut parfois persévérer au-delà des premiers contacts pour commencer à se sentir à l'aise avec un système de règles. Donc il y a toute une procédure d'apprentissage et de familiarisation qui demande du temps et puis qui demande d'ajuster nos différents mécanismes de jeu pour qu'ils soient sans cesse plus motivants et amusants.
Donc à la proposition de créer des ateliers de conception avec des personnes qui ont des difficultés visuelles,
oui.
Ne serait-il pas utile d'ajouter des ateliers simplement pour présenter les jeux pour que l'animateur puisse être capable de le télécharger, puisse être capable d'en profiter?
Ah, vous proposez donc de revenir ici pour que je vous présente différents jeux sonores.
Non, mais
ça fait très plaisir.
De dire, supposons, bon, j'irai au centre communautaire du regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal Métro et ceux qui veulent apprendre à jouer à tel jeu, on va vous montrer comment y avoir accès, comment ça fonctionne.
Eh bien, c'est une excellente idée, c'est vrai, et donc je pense qu'on va vraiment tâcher de mettre ce genre de rencontres régulièrement, sur une base régulière, tout au long de l'année 2015, parce que c'est vrai qu'il y aurait des choses à présenter.
Ben, c'est parce que c'est bien des concevoir, mais si finalement nous qui manquons l'habitude ne savons pas comment les utiliser, ben votre masse critique de clients elle va vous tourner le dos.
Oui.
Maintenant, vous visez quel âge, puisqu'on parle de pédagogique?
Alors, pour ces ateliers de conception, on s'adresse principalement à des jeunes au sens large, en fait, préférentiellement de 16 à 35 ans. En 35 ans, on n'est plus si jeune que ça, mais
c'est vrai,
voilà.
Mais on l'est encore.
On l'est encore, oui, si en considérant qu'on peut vivre encore bien, bien vieux maintenant. Et on s'adresse principalement pour cet atelier qu'on aimerait faire à des personnes qui sont en situation de handicap visuel. Ou en situation de handicap moteur aussi, parce qu'on veut vraiment faire des jeux qui soient le plus accessibles possible.
Ouais.
Et après, c'est juste sur une base d'intérêt. Pas besoin d'avoir des compétences particulières, pas besoin de savoir manipuler un ordinateur ou de programmer, quoi que ce soit. On va se rassembler, on va discuter de comment faire un jeu, et puis ensemble, on va réussir à identifier les compétences de chacun, former un groupe, et puis concevoir un jeu.
Ça peut coûter combien? Du début à la fin, là, à la conception finale?
Ça coûte de la motivation, de la passion, un petit peu de volonté, un brin de persévérance aussi. Et puis, s'il faut parler d'argent, ça dépend vraiment, en fait, des commanditaires. Le prix moyen d'un jeu indépendant classique tourne autour de 60 000 $. C'est souvent le prix qu'on donne qui fait une espèce de référence. Les jeux que l'on produit, nous, sont d'abord diffusés gratuitement et faits avec des budgets extrêmement réduits. Donc c'est aussi ce qui explique parfois leur côté un peu simple.
Mais comment rentabiliser, Thomas Goddy, si je présume qu'il n'y a pas trop de publicité sur votre site parce qu'on veut que le site soit accessible et facilement navigable? Donc, comment vous rentabilisez l'effort?
Alors oui, nos jeux sont gratuits parce qu'ils s'adressent aussi aux personnes qui sont en situation peut-être de difficultés financières. Mm-hmm. Donc on salue au passage nos différents partenaires studios de conception de jeux vidéo, en particulier Créo, que j'ai vu aujourd'hui, qui fait de la conception de jeux vidéo pédagogiques à vocation scientifique. Et donc, une partie de nos activités sont soutenues par des services que l'on donne à des sociétés de conception de jeux vidéo, des services en ergonomie, en conseil, au niveau du game design. On cherche à les aider à élargir leur public, améliorer leur prise en main de jeux, optimiser leur interface et puis viser un plus grand monde de gens. On salue également la CEDEC de Côte-des-Neiges et de Notre-Dame-de-Grâce qui nous a offert une très généreuse subvention qui nous permet de poursuivre nos activités tout au long de cette année. On est très solidaires avec eux dans le climat actuel de remaniement. Et donc, on bénéficie aussi de dons de différents partenaires. On vient de recevoir, pour l'atelier qu'on aimerait mettre en place, une petite contribution d'Ubisoft, $500, mais qui nous fait extrêmement plaisir et qu'on trouve très encourageant. Et c'est ce genre de petits gestes mis bout à bout qui peut nous permettre de continuer nos activités et de continuer à proposer des jeux gratuitement.
Oui, ce qui est surtout valable avec Ubisoft, c'est peut-être pas le $500 actuel, mais que vous ayez un pied dans la porte. que vous ayez établi un contact et que maintenant, on va peut-être penser à vous un peu plus à l'avenir lorsqu'on prendra le temps d'établir des budgets de commandite ou des choses comme ça.
C'est certain que on est côte à côte, Ludociel pour tous et Ubisoft, il y en a un qui éclipse l'autre, mais voilà, la grosse structure semble prendre soin de la petite et ça nous fait extrêmement plaisir.
Bien sûr, bien sûr. Bon, on parle de, vous me disiez quoi, une quinzaine de jeux?
Nous avons actuellement, une quinzaine de jeux accessibles. Un jeu d'aide à l'apprentissage du braille par le son. Le principe est peut-être un petit peu surprenant de prime abord, mais des systèmes de cartes sonores qu'on aimerait développer. On est en discussion actuellement avec la Grande Bibliothèque de Montréal pour savoir si on pourrait faire une carte sonore de leurs locaux pour aider les gens à s'orienter vers leur département d'accessibilité. On travaille aussi sur des systèmes de quiz accessibles. Donc, je vous ai parlé de Chasseurs de fautes qui fait l'objet d'un financement participatif, dont le propos pourrait être adapté pour toutes sortes de contenus pédagogiques. Nous avons un jeu d'aide au déplacement dans les métros, dans les réseaux de métro, le réseau de transport. On a un jeu qui s'appelle Virtuabus qui permet d'aider les gens à se familiariser avec le réseau de transport de Montréal pour préparer un premier trajet, se sentir plus à l'aise. On a un jeu d'aide à l'apprentissage du clavier qui s'adresse aux jeunes enfants. Donc, les aider à l'occasion d'une espèce de conte interactif où on incarne un savant fou qui peut téléporter des monstres, à utiliser les touches du clavier, identifier où se trouve chacune des lettres pour se sentir de plus en plus performant et créer des messages. Et c'est ce genre de projet, toujours dans la mouvance apprendre en s'amusant, que nous voudrions faire aussi, avec de temps en temps des petites pauses plus ludiques où il s'agit vraiment de s'amuser pour le plaisir.
En terminant, Thomas, est-ce que vous suggérez, en fait, l'usage du site et des différentes possibilités, c'est plus facile avec un téléphone, une tablette ou un ordinateur?
Ça dépend vraiment. Ils ont tous leurs avantages. Le téléphone, c'est peut-être la technologie la moins onéreuse. L'ordinateur, c'est peut-être la plus confortable qu'on a chez soi. Et puis le téléphone, c'est la technologie montante qui permet vraiment de s'amuser dans un maximum de situations. Celle qui est en train de prendre le plus en plus de place, c'est le téléphone. Mais pour l'instant, on continue à privilégier l'ordinateur parce que c'est plus facile pour l'instant.
Donc, ce que vous me dites, c'est que pour aller profiter de ce que Ludociel offre, c'est peut-être mieux d'utiliser l'ordi.
Alors, pour l'instant, nos jeux sont téléchargeables pour des PC. On espère dans mais pour 2015, ça va changer. Ouais. On aura de plus en plus de jeux sur téléphone et tablette.
OK. Le site sur la page du Ça vaut le détour. Merci beaucoup, Thomas.
Merci beaucoup, Luc.
Et c'est quand les dates de ces ateliers? On ne le sait pas encore?
Ça dépend du nombre de répondants. Ouais. Donc là-dessus, on vous invite à prendre contact avec nous. Sur notre site, vous trouverez notre contact sur notre site ludociel-pour-tous.org. Contactez-nous et puis on cherchera à organiser des rencontres sur une base gratuite en fonction de vos disponibilités. Ouais. On espère pouvoir mettre ça dans le courant du printemps 2015.
Thomas Gaudier, un des initiateurs de Ludociel pour tous. On écoute Richard Séguin. Ensuite, on parle d'entraînement pour les personnes atteintes de dystrophie musculaire.
Merci.
Si t'as froid, moi je m'en fais, je fais comme ça. Si tu pleures, c'est encore pire, l'été se noie. Si tu tombes, j'accours comme un chaman. Je sais pas jusqu'où j'irai pour te protéger. Si t'es bien, je suis bien comme le ruisseau. Si t'es heureux, je suis heureux sur le même bateau. Si t'as mal, moi j'ai mal comme un départ. Quand tu souffres, je prendrai ta douleur et ton cauchemar. Ta mère et moi, on te regarde, on parle de toi. On te retrouve, se reconnaît si loin, si près. Te voir sourire fait le bonheur. Te voir sourire, te savoir bien, c'est la lumière dans la demeure. C'était vrai quand t'étais enfant. C'est vrai même à présent. Te voir sourire fait le bonheur. Te voir sourire, te savoir bien, c'est la lumière dans la demeure.
extrait de son Lettres ouvertes. Je regarde le titre, tiens, si ça vous intéresse. Si loin, si près. Jessica Laniel, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va très bien.
Approchez-vous un tout petit peu de mes oreilles. Jessica, qui est kinésiologue, entre autres, elle sévit sur le plancher à Viomax.
Oui.
Et aujourd'hui, vous vouliez nous sensibiliser à la possibilité et l'importance de s'entraîner si on est atteint de dystrophie musculaire. Une maladie, donc, c'est quoi? C'est neurologique?
Oui, dans le fond, c'est une maladie neurologique neuromusculaire qui,
okay.
qui se manifeste par une dégénérescence progressive des muscles squelettiques. Donc, dans le fond, c'est les muscles qui vont s'atrophier, qui vont perdre la force. Et avec le temps, on va voir une diminution au niveau des mouvements, de l'amplitude de mouvement, parce que les muscles, justement, sont plus capables de faire le mouvement.
Vous me parliez d'une quarantaine de variétés de la dystrophie musculaire?
Oui, c'est ça. Dans le fond, comme je disais, ça se manifeste par une dégénérescence progressive, mais il y a jusqu'à 40 et plus maladies qui vont aller chercher cette catégorie-là. Puis ils vont se différencier, en fait, par... la région ou les muscles affectés en particulier.
Les plus connus de ces variétés-là?
Il y a la dystrophie Duchenne, il y a celle myopathique des types... Mais là, ça va vous dire peut-être rien, mais
facio-scapulo-funérale. Ça dépend. Les proches ou ceux qui sont atteints, ils vont être très au courant.
La facio-scapulo-humérale ou celle des ceintures, donc plus au niveau des épaules, c'est ça. Puis, présentement, on n'a aucun traitement pour guérir la maladie. Donc, il n'y a rien qui a été trouvé pour stopper totalement la dégénérescence. Mais on croit qu'avec l'activité physique, on peut ralentir la dégénérescence ou du moins maintenir le plus longtemps possible certaines capacités.
Est-ce que ça demande un entraînement particulier, moins de cardio, plus de musculature ou plus... comment l'orienter?
Dans le fond, ce qu'on va faire, on va préférer une certaine fréquence et intensité, puis on va recommander d'en faire le plus souvent possible côté mobilité de l'articulation. Donc, pour être sûr de diminuer la rigidité, chaque jour, on va recommander des rotations au niveau des épaules, de chaque articulation, juste de venir chercher une mobilité. Par la suite, ça va être des entraînements au moins 3 fois par semaine pour être sûr d'avoir vraiment une adaptation du corps. Mais c'est sûr qu'il faut se fier aussi à notre fatigue. Vu les personnes atteintes de cette maladie-là, des fois, ont une fatigue plus élevée. Donc, si jamais la fatigue est trop élevée, on va recommander juste de prendre du repos et de pas nécessairement s'entraîner à ce moment-là.
Jessica, comment savoir? Et là, c'est une question très large, mais comment savoir si on est vraiment fatigué ou si on est juste un peu momoune?
Mais si on suit à une échelle de perception d'effort, si on dit par exemple...
Et ça existe, ça?
Oui, ça existe. Si on se dit par exemple que 10, une échelle de 1 à 10, puis 10 étant l'effort le maximum qu'on est capable de donner, qu'on ne serait pas capable de garder cet effort-là plus que 5 secondes, par exemple, ça serait notre 10. Puis le 1, ça serait coucher dans notre lit très, très, très facile. On est au repos. Donc, là-dedans, on va essayer de se doser. Donc, pour ces personnes-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de doser dans les 2 à 5 sur 10 quand on est en effort musculaire. Donc, les charges doivent être minimes, vraiment pas trop lourdes, qu'on va qualifier de facile jusqu'à moyen. Et on va faire une quinzaine de répétitions avec ça. L'idée, c'est toujours de rester dans cette perception d'effort-là. Quand elle augmente, on va arrêter totalement cet exercice-là pour pas créer un épuisement, une fatigue musculaire.
Ce que je comprends, c'est que selon la variété... les parties du corps ne seront pas atteintes ou ne réagiront pas de la même façon.
Non, clairement pas.
Est-ce que je souhaite travailler davantage avec les parties qui ne fonctionnent pas bien ou au contraire, ben non, Luc, parce que tu vas te fatiguer encore plus rapidement?
Mais là, faut penser que l'objectif, c'est de rester le plus autonome et le plus efficace possible, le plus longtemps possible. Donc, on va favoriser des exercices qui ne vont pas juste travailler un muscle en particulier, mais plusieurs muscles à la fois. Donc, par exemple, si, pour que ça soit concret, là, un exercice de biceps. T'sais, si on prend juste un poids dans notre main et qu'on fait une flexion au niveau du coude pour ramener le biceps vers le torse, cet exercice-là va juste aller sur le biceps. Donc, on va favoriser juste le biceps.
C'était bien d'écrire, c'était ça.
Cet exercice-là, si je fais la flexion, c'est ce qu'on va aller favoriser, mais on va essayer d'éviter l'extension du bras. Donc, quand on redescend le poids, puisque ça fait un étirement du muscle et on croit, selon les recherches, que ça fait plus de dommages musculaires et n'aide pas justement au gain musculaire, mais juste ça va aider à... Dans le fond, ça va peut-être faire plus de dommages que de gains.
Mais j'ai l'impression que ça, c'est vrai pour... je me souviens, on m'a déjà dit, lorsque je poussais de la fonte avec mes bras, ne va pas au bout... pour ensuite être en extension complète. Juste avant, garde ton coude un tout petit peu plié, puis ensuite, reviens vers toi. Donc, mais dans... je ne suis pas atteint de dystrophie, donc c'est vrai pour tout le monde.
Mais non, c'est vraiment différent. C'est que la dystrophie, on va éviter les exercices, comme je disais, en extension, quand ça étire le muscle. On va aller plus en contraction, quand le muscle se rapetisse, pour avoir les gains musculaires. Monsieur, madame, tout le monde... C'est pas grave d'avoir un exercice qui va en excentrique parce que, dans le fond, quand on vient étirer le muscle, c'est que ça fait comme une micro-déchirure dans le muscle. Et là, des fois, c'est ça qu'on sent le lendemain ou le surlendemain, qu'on est un peu raqué, mais ça va faire un gain musculaire. Chez la personne avec dystrophie, on va éviter ça parce que ça va justement faire comme une déchirure et ça va... aider à la dégénérescence, ce qu'on veut pas.
Justement, je pense au lendemain de l'exercice. Quand la personne doit-elle s'inquiéter? Parce que tous, on est raqués le lendemain.
Oui. Dans le fond, les courbatures peuvent arriver 24 à 48 heures post-exercice, donc après l'exercice, et peut durer justement 24-48 heures.
Facilement.
Mais, oui, facilement. Il y en a quand c'est vraiment des entraînements très, très difficiles, peut durer jusqu'à 3 à 5 jours. Au-delà de ça, si jamais les courbatures persistent, donc même au-delà d'une semaine, je vous recommanderais d'aller consulter. Il y a peut-être une déchirure qui s'est faite trop grande ou quelque chose comme ça.
Est-ce que le genre d'entraînement comme celui proposé aux personnes qui vivent avec la dystrophie musculaire, on peut consulter à peu près n'importe quel kinésiologue dans n'importe quel centre d'activité physique ou vraiment il faut trouver le kinésiologue spécialisé?
Normalement, dans la formation en kinésiologie, il y a possibilité d'avoir eu la formation justement pour les pathologies et savoir c'est quoi une dystrophie musculaire et avoir eu la formation. Mais ce n'est pas quelque chose qui est donné nécessairement dans toutes les universités. Donc, il faut faire attention. Le kinésiologue, c'est sûr que c'est important, du moins qu'il aille faire ses recherches si jamais il n'est pas au courant. Mais non, je ne crois pas qu'on peut aller voir n'importe qui. C'est quand même une maladie dégénérative. Et si jamais l'entraîneur prescrit des entraînements qui sont trop à intensité trop élevée, par exemple en force ou justement qu'il y a beaucoup de phases excentriques, donc d'étirement du muscle, comme je disais tantôt, ça va juste faire que la personne va être plus fatiguée. Peut-être que ça va causer juste plus de douleurs, des crampes.
Oui, parce qu'il est possible que la personne ne puisse pas faire des exercices avec de l'étirement ou de la difficulté à faire ces étirements.
Oui, il y a dans le fond, comme je disais tantôt, vu que c'est une dégénérescence musculaire, il y a une certaine amplitude de mouvement qu'à la longue, on va perdre parce que ça va être difficile de, par exemple, monter les bras au-dessus de la tête ou de se pencher pour ramasser quelque chose parce que le muscle n'est plus assez fort.
Ouais. Et c'est pour ça que j'aime l'idée d'un kinésiologue spécialisé parce que peut-être quelqu'un qui n'est pas habitué n'invitera pas la personne à tenter de se dépasser. Parce qu'il va vouloir être très, très prudent.
Oui, peut-être qu'il va avoir peur,
c'est ça. Alors que l'autre personne qui voit cette personne-là, qui en a vu d'autres, puis qui n'a pas une situation, qui a le cœur solide, va peut-être justement dire, OK, pousse un peu, là, je sais que tu es capable, ou poser quelques questions, savoir quelles questions poser pour ensuite dire, non, ralentis.
Oui, puis dans le fond, tu sais, le kinésiologue, qu'est-ce qu'il peut faire, c'est que quand la personne n'est pas capable de faire l'étirement elle-même, par exemple, on y va avec monter le bras au-dessus de la tête pour garder l'amplitude. Elle va monter le maximum qu'elle est capable et par la suite, va laisser faire le kinésiologue ou l'entraîneur spécialisé pour monter l'amplitude qu'elle est capable d'aller chercher, mais qu'elle n'est pas capable par elle-même. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas aller dans l'extrême et blesser la personne.
Parce que ce que je comprends, c'est que le but n'est pas de lever une charge, mais simplement d'étirer le muscle.
D'aller chercher la mobilité au niveau de l'articulation et d'étirer le muscle dans son amplitude complète.
Okay.
Donc, ça va aider à la circulation et justement à diminuer la rigidité et peut-être même les douleurs, si c'est possible.
Ouais. Est-ce que dans votre expérience, votre pratique, il y en a plusieurs qui sont atteints ou les gens sont timides lorsqu'ils sont atteints de dystrophie, lorsque vient le temps de faire de l'exercice physique?
Dans mon cas, moi, je travaille au centre de conditionnement Viomax. J'en ai plusieurs avec dystrophie musculaire, mais souvent, justement, les gens ne sont pas au courant des bienfaits de l'activité. Ils font un programme depuis, le même programme depuis plusieurs années. Donc, ils sont sur un plateau, comme je pourrais dire, qui n'ont pas nécessairement...
Ils lui ont plafonné.
Oui, c'est ça. Ils n'ont pas nécessairement d'autres acquis depuis peut-être 1 à 2 ans. Donc, c'est sûr que d'utiliser des fois un renouvellement de programme ou de payer pour va vraiment faire une différence. Comme je disais tantôt, l'exercice du bicep, donc quand on fléchit le bras, je disais que oui, ça, c'était pour plus visualiser au niveau de qu'est-ce qu'il faut favoriser comme exercice, mais juste faire ça, ça travaille juste le bicep. Par exemple, un kinésiologue, qu'est-ce qu'il va recommander à la place? Ça va être de faire un exercice comme le rameur. Donc, visuel, commencer, c'est que tu peux être assis sur une machine ou avec un élastique. Les deux mains devant, et tu viens tirer vers l'arrière. Donc, tu viens coller les omoplates dans le dos et ça travaille le dos et les biceps. Donc, il y a vraiment une connexion de plusieurs muscles en même temps. Ça évite trop de fatigue et c'est ce qu'on va recommander vraiment plus. Donc, c'est sûr qu'avoir un kinésiologue près de soi puis savoir quoi faire va vraiment aider. Ouais,
donc, c'est bon, la mise à jour de temps en temps. Merci beaucoup, Jessica Laniel.
Merci beaucoup.
Merci également à Lynn Gargano, Claudia Benoît, Rémi Hermanso. Désolé, Rémi, si jamais j'ai magané ça. N'oubliez pas Accès Libre. On se retrouve bientôt.
Merci.